Donc bonjour, je m'appelle Cindy Joux, je suis vétérinaire à Limbre, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Et j'exerce avec une dominante élevage depuis 2009 maintenant.
Donc nous, on a toujours dans l'idée qu'un vétérinaire, c'est quelqu'un qui s'occupe, du moins dans le monde rural, d'animaux, de fermes, etc. Mais ce métier a beaucoup évolué, notamment il s'est peut-être élargi à l'élevage des chiens, des chats, autres animaux domestiques.
Alors aujourd'hui, le vétérinaire, il a de multiples casquettes. Effectivement, on est habilité à soigner diverses espèces, à la fois les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie, parmi lesquels on va trouver les furets, les gerbilles, les hamsters, ce genre d'animaux. Serpents aussi, iguanes si on veut. Et puis les animaux d'élevage, donc là on a principalement représenté les bovins, mais aussi les chèvres, les moutons, les poules, les lapins un petit peu. Et puis après, vous pouvez trouver des vétérinaires qui sont spécialisés dans des espèces un peu plus exotiques, en particulier au service des zoos. Donc là, ils vont pouvoir intervenir sur des lions, des tigres, des zèbres, etc., en fonction des besoins.
Donc, un vétérinaire, on a a priori l'idée qu'il a une formation spécifique. Est-ce que par rapport à un médecin, c'est très très différent ? Parce qu'en fait, soigner un homme ou un animal, d'un point de vue fonctionnel, il y a des ressemblances.
Il y a des similitudes, effectivement. Alors, c'est pas si différent que ça, dans la mesure où on va, comme un médecin, apprendre l'anatomie, apprendre la physiologie, apprendre la pharmacologie pour ce qui est de l'usage des médicaments, etc. Ce qui change, c'est que nous, on est multi-espèces. Et qu'en soi, une vache, ça fonctionne pas pareil qu'un cheval, ou qu'un chien, ou qu'un chat, ou qu'une abeille. Parce que j'ai oublié de citer aussi les abeilles dans nos petits animaux dont on s'occupe, et c'est important.
Alors, dans les animaux, en gros, il y a ceux qui sont domestiques, et puis il y a les animaux d'élevage pour, je veux dire, la boucherie, pour le lait, etc. Est-ce que c'est deux visions très différentes du traitement de ces animaux ?
Non, dans le fond, c'est pas si différent que ça. Il faut garder à l'esprit que nos éleveurs, effectivement, ils élèvent des vaches dans un but de produire des denrées alimentaires dont on a besoin de toute façon. Lait, viande, effectivement, œufs pour la production volaille, par exemple. Mais ils ont un grand sens du bien-être de leurs animaux parce que c'est indispensable pour avoir une production qui soit cohérente. Donc effectivement, c'est pas parce qu'ils ont plus d'animaux à charge éventuellement dans un élevage qu'ils s'en prennent pas autant soin que quelqu'un qui aurait une vache de compagnie dans son espace vert, on va dire. Donc voilà, pour nous c'est pareil, c'est du soin à l'animal de toute façon, c'est ça notre cœur de métier.
Donc vous avez un rôle très important, évidemment, dans tout le système d'élevage. Vous êtes la caution morale quelque part et physique aussi.
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est la caution morale, mais en tout cas, moi, j'aime à dire qu'on est les partenaires de nos éleveurs. On travaille vraiment sur un pied d'égalité avec eux. Le but du jeu, c'est d'échanger, de partager et de progresser ensemble. Et c'est ça qui fait aussi toute la saveur de notre métier de vétérinaire en élevage aujourd'hui.
Est-ce que vous voyez des évolutions dans la considération du vétérinaire par le monde agricole, enfin d'éleveur, hein ?
Je ne sais pas si ça... C'est difficile de dire si ça... À quel point ça a pu changer, parce que j'ai pas non plus 30 ans d'expérience, mais je pense qu'il y a une communication qui est un petit peu différente aujourd'hui avec nos éleveurs, parce qu'ils attendent autre chose de nous aussi. Ils attendent un certain conseil, un certain encadrement technique. Ils attendent qu'on soit partie prenante de leur entreprise, parce qu'ils sont gestionnaires d'entreprise, faut pas l'oublier. Et pour que cette entreprise fonctionne, il faut que les animaux aillent bien dans cette entreprise. Et c'est là où nous, on a toute notre place à trouver.
Et eux, ils doivent trouver aussi dans leur économie de quoi financer des conseils ou des visites ou peut-être des opérations d'ailleurs.
Oui, ça fait partie de l'économie de l'élevage, effectivement. Hein, le pôle dépenses vétérinaires, c'est un pôle qui, malgré tout, est indispensable pour assurer la pérennité de l'élevage. Après, on fait partie des multiples intervenants qui gravitent autour de l'élevage. Il y a les fournisseurs d'aliments, il y a les fournisseurs de minéraux, il y a tout un tas de ceux qui assurent aussi la fourniture, par exemple, des semences pour la reproduction, etc. Il y a vraiment beaucoup de monde qui gravite autour de l'élevage.
Donc là, on est sur, on va dire, du soin, du traitement d'animaux. Mais quand il y a, par exemple, des grippes aviaires, des choses comme ça, où il y a le préfet qui dit « Attention, arrêtez, on ne peut plus faire voler, il faut surveiller vos bestioles, etc. » Quel est votre rôle dans ce circuit ?
Ben nous, on a deux casquettes. On a à la fois notre casquette de vétérinaire praticien classique, hein, qui va soigner les animaux à la demande d'un éleveur ou d'un particulier. Mais on a aussi une casquette de vétérinaire mandaté par l'État pour des opérations de police sanitaire. Là, on va dire que la marche à suivre, elle est édictée en haut lieu, hein, par les ministères. Et nous, on suit en gros les instructions qu'on va nous donner pour la gestion de telle ou telle crise sanitaire. Mais effectivement, on est un acteur forcément de la gestion de ces crises, puisqu'on est le relais de terrain pour l'accompagnement dans ces cas-là.
J'imagine qu'il y a des cas où vous avez des cas de conscience, où c'est compliqué de faire abattre un élevage. C'est dramatique aussi pour tout le monde, les éleveurs, les animaux et peut-être la société.
C'est surtout, oui, dramatique pour l'éleveur parce que c'est le travail de toute une vie, un élevage systématiquement. Donc, en arriver là sur certaines pathologies, c'est toujours un crève-cœur, mais malheureusement, c'est obligé pour protéger la santé humaine aussi. Quand on parle d'abattage total de cheptel, on ne parle pas de maladies anodines, on parle de maladies qui sont des zoonoses, qui sont potentiellement transmissibles à l'homme, comme la tuberculose, comme la brucellose, et qu'on ne veut pas voir réapparaître en médecine humaine. Donc effectivement, ça peut nécessiter de sacrifier un élevage, et c'est un réel sacrifice, mais c'est pour la préservation de la santé humaine avant tout.
Et est-ce que la concentration des populations dans les élevages favorise justement ces maladies ?
Non. Honnêtement, la surveillance aujourd'hui de ces maladies, elle est très importante. Ce qui fait que finalement, le nombre de cas est bien plus infime qu'il y a des décennies. On maîtrise beaucoup mieux ces pathologies-là en élevage. La concentration, elle peut être un facteur de multiplication des maladies si l'environnement est mal géré. Mais si l'environnement des animaux est bien géré, que leur logement est adéquat, que leur alimentation, leur abreuvement est adéquat et que le suivi sanitaire du troupeau est fait correctement, c'est pas une source majeure d'apparition de maladies, en fin de compte.
Et est-ce qu'on voit arriver des vagues d'épidémies qui viennent de Belgique, de Hollande, etc. ?
On voit toujours apparaître de nouvelles maladies, oui, parce qu'on a une bonne partie de maladies qui sont dites vectorielles en particulier, transmises par des moustiques ou des insectes piqueurs, et qui, du coup, peuvent diffuser de pays d'origine, on va dire, plus au sud et remonter sur des pays du nord. Actuellement, on a la maladie hémorragique qui remonte depuis l'Espagne et qui, maintenant, est arrivée jusqu'en Bretagne. Peut-être qu'elle viendra jusque chez nous dans les Hauts-de-France, mais on est aussi là pour surveiller l'émergence de ces nouvelles maladies. Là encore, c'est aussi notre rôle de vétérinaire.
Voilà, vétérinaire sans frontières.
On peut dire ça. On peut dire ça.
Merci.
Merci à vous.